Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Lievin Bwinga.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du soir à la une de l'actualité. Opération retour des Rwandais dans leur pays d'origine en cours. Ils sont au moins 1100 à avoir regagné le Rwanda. Opération lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis samedi à Goma et se poursuit ce lundi. Vous suivrez les précisions de la porte-parole du HCR basée à Genève. Et puis la pluie, toujours elle, a encore fait des dégâts. Habitations privées, bâtiments publics, maisons commerciales sont gravement endommagées dans la ville de Bandundu après la forte pluie d'hier dimanche. Le commissariat provincial de la PNC vient d'ailleurs de perdre ses dossiers sensibles. L'invité de ce journal est le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Valérie Madianga revient sur le rapport du monitoring citoyen sur l'exécution du programme de développement local de 145 territoires mené par sa structure. Au moins 1100 Rwandais viennent de regagner leur pays d'origine. Une opération lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis samedi à Goma et qui s'est poursuivie ce lundi, indique le porte-parole du HCR basé à Genève. Madame Yunjun Bayan souligne que la première vague concernait un peu plus de 300 réfugiés et ce lundi, c'est un deuxième convoi transportant environ 800 réfugiés rwandais qui a quitté la ville de Goma pour le Rwanda. Cette opération va se poursuivre, dit-elle. Suivons Yujun Obayan que nous avons jointe au téléphone.
360 personnes ont déjà été rapatriées samedi et 695 autres sont attendues aujourd'hui. Donc, en gros, à la fin de la journée, ça doit être 1100. Ça, c'est ce que notre collègue qui travaille en ce moment, pour justement vérifier leur profil, donc le screening par notre collègue RDC, ça continue. On voit que, voilà, si des gens qui vont partir au leur pays d'origine, et puis si ça c'est le droit international, loi internationale, et puis le principe non-refoulement. Il dit qu'on a déjà vérifié leur profil. Et puis mes collègues ils m'ont indiqué que toutes les personnes qui sont entrées sont des citoyennes rwandais et puis les réfugiés. Donc la majorité c'était les femmes et les enfants et handicapés les personnes âgées.
C'était la porte-parole du HCR basée à Genève. Pendant ce temps, une vague de population continue de fouiller les villages de la chefferie de Bouito en territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. À la base, l'intensité des affrontements à l'arme lourde observée dans la zone de Bambo et Tongo depuis quelques semaines. D'après nos sources, au moins 9 personnes ont été blessées dimanche matin par des éclats d'obus à Rukamba et Kagano. Ces blessés sont pris en charge à l'hôpital général de Bambo. Face à cette situation, certains notables du coin appellent les humanitaires à suivre avec attention les conditions humanitaires que traverse la population en errance. Plus de précisions avec Rachel Kiesse.
Une accalmie relative s'observe ce lundi dans la matinée dans certaines localités de Bukombo et Tongo. Ce après des violents combats à l'arme lourde rapportés dans plusieurs villages, notamment à Kojo, Moucha, Makomalehe, Bundase, Butare et ailleurs. Une vague d'habitants fuyant ces détonations se dirigerait vers Bambo et d'autres dans la brousse. Les sources locales s'inquiètent de l'utilisation, selon elles, des armes à longue portée dans cette région. Ce sont notamment des bombes qui seraient lancées par les rebelles depuis Kaunga dans les parcs des Virunga près de Kiwanja et qui atteignent Kirumba et Kagando dans les Bwito, une trentaine de kilomètres de distance. C'est là que des civils ont été blessés hier dimanche, expliquent nos sources. Elles affirment en outre que parmi la population qui se déplace, des femmes, enfants et vieillards traversent des conditions humanitaires précaires. Ces derniers plaident pour qu'une assistance humanitaire soit organisée dans la zone. Appel lancé notamment à l'endroit des ONG, MSF et le CICR présents dans la zone en faveur de la population déjà appauvrie par l'insécurité quasi permanente. Rappelons que le week-end, les Wazalendo ont réussi à récupérer deux grandes agglomérations de Kishishe et Bambo au cours de ces affrontements violents. La situation reste incertaine dans la zone, s'inquiètent plusieurs personnes.
En même temps, des affrontements forces armées de la RDC et miliciens du groupe armé Zaïre sont signalés depuis ce lundi matin, non loin de Bounia, du côté de l'Ituri. C'est précisément dans la périphérie du village de Jina, entité coutumière située à 35 km de Bounia dans le territoire de Djougou. Bilan provisoire, 3 blessés graves. Autre conséquence de ces combats, c'est la paralysie des activités socio-économiques. Notez par ailleurs que 6 personnes ont été tuées hier dimanche dans une embuscade tendue par des présumés éléments de la milice Codeco contre une patrouille de l'armée ougandaise à Lida dans la même entité territoriale. Récit des faits avec Jean-Claude Lokidile.
Tout a commencé par l'incendie d'un campement vide des soldats des FARDC à Tchourou par des éléments de la milice Zaïre, affirme une source de sécurité. Quelques temps après, c'est à Liko, l'un des bastions de ces miliciens, où des affrontements ont commencé aux petites heures du matin entre les deux parties. Les casques bleus népalais de la MONUSCO ont réussi à évacuer 3 personnes blessées par balle et sont acheminées à la base de la mission onusienne de Jina, où par ailleurs plusieurs habitants ont trouvé refuge. Une personne a reçu une balle dans la tête, un deuxième habitant est touché à l'abdomen. Un militaire des FARDC est également blessé au bras. Un autre incident est celui enregistré dimanche à Lida, non loin du centre commercial de Boulé. D'après nos sources, c'était une embuscade tendue par la milice Codeco contre une patrouille de l'armée ougandaise. Le bilan provisoire est de 6 morts dans les deux camps et plusieurs blessés. Ces chiffres ne sont pas encore confirmés par des sources officielles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et puis non loin de Bounia, du côté de Kisangani, l'insécurité se porte aussi bien. Tenez, au moins 3 conducteurs de mototaxi ont perdu la vie en l'espace de moins de 2 semaines seulement. Le dernier cas en date est intervenu vendredi dernier. Un jeune homme a été tué par balle par son client alors qu'il réclamait le paiement de la course. En tout cas, ce meurtre relance la problématique de l'insécurité dans la ville de Kisangani, autrefois havre de paix. Reportage Jacques Mokokole.
Les conducteurs des mototaxis disent ne plus savoir comment exercer leur métier. Ils sont la cible des hommes armés non encore identifiés, dont certains n'hésitent pas à ouvrir les feux sur eux. L'un d'eux a succombé à ses blessures vendredi dernier dans la commune Kisangani. Ils expriment leur ras-le-bol. Parmi nos clients, certains portent des jaquettes. Mais vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'un brigand. J'ai déjà été victime de cette situation. Dans la province de la Tchopo, la sécurité bat son plein. Nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité. Les motards ne sont pas les seuls à être visés. Les hommes en armes opèrent même dans des maisons de particuliers pendant la nuit. Tel est le cas d'un avocat au bloc Motumbe ce week-end. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité par intérim, Ghislain Mokenia, exhorte tout le monde à la vigilance et aux motards de limiter leur circulation pendant la nuit.
Circuler dans les heures tardives n'est pas aussi bon. Quand il fait déjà 19h-20h, on doit cesser de circuler, surtout que vous ne connaissez pas les personnes qui vous transportent. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'encourager la population d'être vigilante pour que de tels cas ne puissent plus nous arriver.
La société civile recommande à la police la relance ou l'intensification des patrouilles dans les différentes communes de la ville. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un autre registre, habitations privées, bâtiments publics, maisons commerciales et autres sont gravement endommagés. Bilan de la forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu hier dimanche sur la ville de Bandundu dans le Kwilu. Les locaux du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Kwilu en souffrent terriblement. Certains dossiers sensibles et documents administratifs essentiels ont été détruits par les eaux de pluie. Reportage signé Irène Mbomaluzolo.
C'est dans l'après-midi de dimanche que cette pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais l'ampleur des destructions suscite l'inquiétude dans les chefs de la population. Cette pluie a occasionné des dégâts matériels considérables, notamment dans les quartiers Trois-Rivières, Sibé Congo, Monisco et autres où plusieurs maisons d'habitation sont endommagées, laissant ainsi des familles sans abri. Outre les maisons des particuliers, plusieurs infrastructures publiques sont aussi gravement touchées. Parmi elles, nous pouvons citer le commissariat provincial de la police du Kwilu dont les bureaux ont été inondés et la toiture emportée par les vents. Il y a aussi le centre hospitalier de la police qui a subi des dommages, menaçant ainsi la continuité des soins de santé. Le colonel Camille Atungale est le porte-parole de la police du Kwilu.
Parmi les bureaux qui étaient touchés, il y a le magasin de la police. Donc, ça aura vraiment un impact très sérieux. Ça va impacter énormément le travail de la police.
Les écoles et les maisons commerciales ne sont pas épargnées. Les familles sinistrées en appellent à l'intervention des autorités avant que la situation ne s'aggrave. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis bientôt, la fin du calvaire concernant le pont Similiki dans le Nord Kivu. Le trafic des véhicules poids lourds sur cet ouvrage situé sur la route Beni-Kassindi va bientôt reprendre. Ce trafic avait été suspendu il y a 3 semaines en raison des travaux de réhabilitation engagés après des menaces d'effondrement de cet ouvrage stratégique. D'après Dieudonné Okunji, chef de la brigade de l'office de route de Beni, l'essentiel des travaux est terminé. La remise du pont aux autorités est annoncée pour les tout prochains jours. Il le dit au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Pour le moment, nous avons déjà réalisé les gros du travail. Le gros du travail est déjà fait parce que le gros du travail était de remplacer les panneaux qui étaient déformés et de remplacer aussi les appareils d'appui. Cela a été fait, bien sûr, avec beaucoup de difficultés parce que remplacer ces éléments au-dessus de l'eau, ça n'a pas été chose facile. Il ne reste qu'à vérifier les ponts, voir là où les boulons sont desserrés, les serrer encore. C'est ce qui reste comme un travail à faire. Couler un petit béton où va reposer un montant d'extrémité du pont. C'est ce qui nous reste comme travail à faire. Si tout va bien, on pourra finir ce travail et à partir du mardi, on va remettre l'ouvrage à l'autorité provinciale pour la réutilisation.
Et comme recommandation, nous allons demander aux opérateurs économiques de se conformer à la réglementation internationale en ce qui concerne les tonnages des véhicules.
Le pont Semouliki, situé sur la route Beni-Kassindi, constitue une voie essentielle pour les importations et exportations des marchandises dans les régions de Beni-Boutembo et Lubero. Pour éviter son effondrement, la MONUSCO avait remis aux autorités du Nord Kivu un lot important de matériel d'une valeur de 350 000 dollars américains pour la réhabilitation de cet ouvrage en péril. Et puis 260 femmes peuvent sourire au Kasaï oriental. Elles ont bénéficié hier dimanche des non-vivres à l'occasion de la journée de bienfaisance en faveur des femmes victimes des conflits dans le territoire de Katanda à plus ou moins 60 km de Mbujimayi, dont distribuée par Caritas Développement. Cette assistance humanitaire provient des fonds collectés par l'université officielle de Mbujimayi. Il faut noter que ces femmes étaient venues prier hier dimanche à la paroisse catholique Saint-Michel de Katanda. Explication Esther Ndalafina.
C'était une grande surprise pour les femmes venues volontairement prier ce dimanche à la paroisse catholique Saint-Michel de Katanda. Les bénéficiaires expriment leur joie en disant:
nous avons reçu le bassin, le pain, le sucre et du sel, les savons de toilette et des lessives. Nous remercions la Caritas. Qu'elle ne nous oublie pas, qu'elle pense régulièrement à nous.
Toutes les femmes de Katanda n'ont pas bénéficié de cette assistance humanitaire. Explication de Pierre Moulumba, directeur de bureau des urgences à la Caritas Développement Mbujimayi.
Il n'y avait pas moyen d'aller à la cité pour faire les ciblages. C'était un petit projet d'urgence. Vous allez créer beaucoup de problèmes si on devait faire porte à porte. Ça allait nous compliquer vraiment. Il fallait des moyens assez consistants pour faire la campagne à travers toute la population. Ça allait prendre du temps et puis...
Signalons que cette assistance humanitaire provient de la collecte des fonds organisée au mois d'avril dernier par l'université officielle de Mbujimayi, UOM. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans un tout autre chapitre, le gouverneur de la province de la Tchopo a lancé samedi un projet d'appui à l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business. C'est un projet du Fonds social de la République financé par la Banque africaine de développement. À l'issue de cette formation, les jeunes sélectionnés devront présenter des projets bancables dans leur domaine de prédilection pour être appuyés financièrement. Blaise Mvumbi, expert international au Fonds social de la République, lance un appel aux jeunes afin de s'approprier ce projet qui vise notamment l'absorption du chômage. Il est au micro de Jacques Moukonkolé.
Ces jeunes seront formés pendant 3 à 6 mois dans les métiers innovants en lien avec le secteur agricole. Selon la spécificité qui sera choisie par chaque jeune, le projet pourra mettre en place des financements pour financer leur business plan. Il est prévu pour la province de la Tchopo un centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business.
Comment allez-vous procéder pour sélectionner les jeunes? Y a-t-il des critères mis en place?
Il y a la question d'âge qui est de 15 ans enfants révolus à 29 ans, révolus. Il y a le niveau d'instruction, il faudra avoir au moins un certificat d'école primaire, mais aussi la non-discrimination. Donc, c'est tous les jeunes sont concernés. Et pour la province de la Tchoupe, c'est 3900 jeunes qui seront formés gratuitement. Nous espérons qu'à la fin, on aura des plans d'affaires qui seront bancables. Que les jeunes puissent s'approprier de ces projets, parce que c'est une opportunité que les chefs de l'État leur offrent pour les promouvoir et absorber le taux de chômage qui est visiblement vécu dans notre pays.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, l'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate, ont annoncé dimanche les services de l'ex-président américain. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a été diagnostiqué vendredi. Selon le communiqué, son cancer est de niveau 9 sur le score de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité de cancer de la prostate sur une échelle allant jusqu'à 10.
L'invité.
Notre invité, Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il revient sur le rapport du monitoring citoyen sur l'exécution du programme de développement local de 145 territoires mené par sa structure. Il s'entretient ici avec Grace Hamzati.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée dans votre démarche et combien de territoires et entités concernées?
Bon, dans notre méthodologie, nous avons sélectionné un échantillon de 20 territoires. Dans les 20 territoires, nous avons visité 11 parce que dans les 9 autres territoires, il était difficile d'accéder. Vous savez que nous avons connu des problèmes climatique, il y a eu aussi un problème de sécurité, notamment dans Popocabacá. Là, on n'a pas pu accéder pour visiter les infrastructures. Au total, une centaine qui étaient pratiquement sous examen et c'est ce que nous avons fait. Mais avant d'y aller, nous avons collecté les documents officiels, notamment la reddition des comptes 2022-2023. Nous avons aussi vérifié tous les rapports d'exécution du budget qui sont publiés par le ministère de Finances et celui du budget. Il y a aussi quelques rapports d'évaluation des projets ou des marchés publics qui sont rendus publics par l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, ce sont ces documents-là qui nous ont permis à ce que nous puissions établir une cartographie de descente sur terrain. C'est pourquoi on a été dans les 20 territoires qui sont les territoires des provinces, notamment du Congo central, du Kwilu, Kwango, ainsi que la province du Kasaï.
Et en résumé, qu'est-ce que vous avez pu constater?
En résumé, nous avons constaté que, premièrement, nous avons noté un décalage entre le coût d'exécution des ouvrages et la qualité des ouvrages qu'on a livrés à l'État. Il y a des infrastructures aujourd'hui qui présentent déjà des malformations. Vous avez aussi des équipements qui ont été livrés qui ne sont pas de bonne qualité. Et ça, nous l'avons vu. Nous pensons que ces ouvrages peuvent coûter moins que ce que ces entreprises ont facturé à l'État. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il faut un audit pour nous départager. Deuxièmement, nous pensons que ce qui a été fait sur le terrain ne cadre pas avec les priorités de la population. Nous avons également mené des consultations au niveau des différents territoires où nous avons relevé que les priorités réelles exprimées d'un territoire à l'autre diffèrent. Vous avez par exemple au niveau de Kamonia, dans les Kasaï, là on nous dit la priorité c'est d'abord l'électricité et la réhabilitation des routes. Si vous allez dans les territoires de Bulungu, notamment dans la commune rurale de Djouma, là, et ils ont besoin, par exemple, des réhabilitations du bac qui devait servir la traversée entre les secteurs de Mikui et la commune rurale de Djouma. Donc, vous voyez que les priorités diffèrent d'un territoire à l'autre. Il fallait qu'il y ait un travail de fond pour déterminer les besoins. Un autre élément, le cadre de gestion de ces programmes, ces cartes de principes de gestion budgétaire qui sont édictées par le manuel de procédure qui a été validé par notre pays. C'est ça. Un dernier élément, nous avons noté que les structures qui ont été recrutées pour gérer les projets ne sont pas habilitées parce que la loi relative au marché public définit les cadres de gestion des projets et des passations des marchés publics, c'est très clair.
Et vous estimez à combien le coût de ces décalages-là entre le financement et l'exécution sur le terrain?
Donc, je peux dire que la construction des écoles et la construction des centres de santé, ce n'est pas un programme nouveau. Ce sont des programmes qui ont été déjà exécutés dans notre pays sous l'ancien président Kabila, pendant le programme des 100 jours, ainsi de suite. L'exécution n'avait jamais dépassé les 100 000 dollars. L'exécution n'avait jamais dépassé les 100 000 dollars. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 250-280 000 dollars. Et pire encore, au niveau des centres de santé, vous dépensez plus de 250 000 dollars et vous n'équipez pas les centres de santé en matériel médical. Ça pose énormément de problèmes. Nous avons relevé que l'EPEDEL a boosté l'accès aux soins de santé, notamment pour les femmes, mais toutes ces femmes-là accouchent dans de mauvaises conditions parce que il n'y a pas d'équipement médical.
Lors de la présentation de votre rapport, il y a des ONG qui l'ont contesté, que ce soit sur le plan de la forme et du fond, notamment la CFF. Comment vous réagissez face à cette contestation immédiate ?
Nous pensons que cela relève de la démocratie, des principes de débat démocratique. Nous pensons que c'est ce genre de débat qui doivent exister dans notre pays pour qu'il y ait la transparence et la redevabilité. Nous restons positifs. Nous avons recueilli les avis des uns et des autres. Ce que nous pensons pour le moment, c'est que ces agences doivent lire d'abord notre rapport et regarder les commentaires, les réponses des commentaires qu'elles nous ont adressés. Et à ce temps-là, elles peuvent voir s'il y a des décalages, elles peuvent utiliser les mêmes canaux que nous pour que la redevabilité puisse prendre le dessus.
Valérie Madianga, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Seboujangwe, Jude Mister Bilanda, Junior Richard Kamunga et à Billy Landry Betou. Excellente soirée à toutes et à tous.